VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Mouvement de contestation au Soudan, les manifestants pro-changement sont en train de démanteler des barricades à Khartoum ce vendredi. Mais ils ont menacé de les rétablir si les généraux ne reprennent pas les négociations sur un transfert du pouvoir. Ces barrages routiers ont conduit l'armée à suspendre mercredi soir le dialogue avec les leaders de la protestation. Vu que les tentatives des forces de sécurité d'enlever ces obstacles à la circulation ont donné lieu à des violences. 5 civils et un militaire ont été tués lundi dans des heurts et 8 civils blessés mercredi. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire au pouvoir, a justifié la suspension de 72 heures des pourparlers en invoquant la dégradation de la sécurité. Pour leur part, les leaders de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, fer de lance du mouvement de contestation, ont dit regretter la suspension et ils affirment vouloir maintenir la mobilisation. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant, le G5 Sahel, l'organisation anti-djihadiste régionale, plaide pour la création d'une coalition internationale antiterroriste dans la sous-région. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie du Burkina Faso, Alpha Barry, a affirmé hier que la lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel est une responsabilité collective. On écoute Alpha Barry à New York.
À défaut donc d'obtenir un mandat sous le chapitre 7 des Nations Unies, nous demandons qu'une coalition se forme parce que la sécurité du Sahel, c'est la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, c'est la sécurité de toute l'Afrique, c'est la sécurité de l'Europe et du monde entier. Le G5 est sur pied mais n'est pas encore pleinement opérationnel. Le constat, c'est que la menace s'amplifie, la situation sécuritaire se dégrade. Nous pensons que les pays développés, notamment, doivent faire des efforts supplémentaires afin d'apporter un appui conséquent donc aux États du G5 Sahel qui font des efforts inestimables.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères, joint à New York par Yacouba Ouédraogo. Au Mali, 4 militaires maliens ont été tués jeudi par des djihadistes présumés. Les soldats sont tombés dans une embuscade dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Les détails avec Jean-Roger Bion.
L'attaque s'est produite vers la mi-journée dans le secteur de Diafarabé, a affirmé l'armée malienne dans un communiqué la qualifiant d'embuscade. Au cours de cet accrochage, les FAMA, les forces armées maliennes, déplorent, vous l'avez souligné, 4 morts. Selon un élu de Diafarabé, ce sont des militaires en patrouille à 14 km de la ville qui se sont battus contre les djihadistes. Les assaillants ont emporté des armes lourdes, d'après cet élu. Depuis 2015, des violences sont en cours dans le nord et le centre du Mali, se mêlant très souvent à des conflits intercommunautaire, un phénomène que connaissent également le Burkina Faso et le Niger voisin. Pour rappel, le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, malgré la signature en 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes dont l'application accumule les retards.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Niger, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours en l'honneur de la trentaine de militaires tués mardi dans une embuscade tendue près de la frontière malienne par des éléments terroristes du groupe État islamique dans le Grand Sahara. Jeudi, le président nigérien Mahamadou Issoufou est allé au chevet des blessés dans les centres de santé de Niamey, la capitale. Notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa, a recueilli les réactions de plusieurs Nigériens face à l'insécurité croissante dans leur pays.
À Niamey, c'est encore le choc chez beaucoup de citoyens après cette terrible attaque.
J'ai le cœur lourd en parlant de ce sujet parce que c'est pas pour la première fois, ça fait la énième fois. On dirait que c'est un cycle infernal. La désolation, ça se lit sur tous les visages. Vraiment, on a le cœur brisé. Tout Nigérien.
C'est vraiment très douloureux de l'apprendre. J'étais passé, même si ce n'est pas le premier événement, le premier exercice auquel les terroristes nous ont soumis. Mais c'est quand même très affligeant.
On avait pensé que vraiment la paix était en tout cas revenue dans la zone, la frontière Niger-Mali, parce que c'était très calme. C'était très calme et puis vraiment on applaudissait. Et pour nous c'était vraiment des signes de joie que cette situation allait peut-être trouver une solution.
Passé le choc et l'affliction, l'on s'interroge sur la recrudescence de ces assauts djihadistes.
Vraiment, le président, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À mon avis, le président doit revoir son armée, voir les placements. C'est que les gens qu'ils ont placés doivent voir ce qu'ils sont en train de faire réellement. S'ils ne sont pas à mesure de sécuriser notre pays, on n'a qu'à les enlever et chercher des... Parce que ce n'est pas ce qui manque. On a des gens qui sont vraiment valables et on sait là où ils sont. Donc, ces personnes-là, le président est interpellé aujourd'hui. Il doit faire quelque chose parce que vraiment, on est en train de on est fatigué de cette histoire-là.
Quand on dit qu'on a tué comme ça en quelques, je ne sais pas le temps que le combat a pris, une trentaine de soldats, et qui était au total, on dit, un détachement d'une cinquantaine de personnes, de militaires, mais les adversaires étaient connus. Et dans leur rang, on n'a pas encore entendu parler d'un bilan. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et beaucoup de Nigériens se posent beaucoup de questions.
Ce n'est pas une question de deuil, mais de faire en sorte que nos braves soldats ne tombent plus encore. Ça, je crois que c'est la meilleure solution. Et ça, il faut une bonne collaboration. Il faut associer tout le monde, tous ceux qui sont capables d'apporter leur modeste contribution. Ce n'est pas ces blancs-là qui vont nous aider. Je crois qu'entre nous, c'est à nous de voir comment nous allons gérer nos problèmes.
Parti au chevet des blessés à l'hôpital général de référence de Niamey, jeudi après-midi, le président Issoufou Mahamadou s'est dit convaincu que très bientôt, ces groupes djihadistes seront vaincus.
Je voudrais ici réaffirmer notre détermination, notre volonté de protéger toute l'étendue de notre territoire, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, tôt ou tard. Ces forces du mal qui sèment la mort seront vaincues. Elles l'ont déjà été en Irak, elles l'ont déjà été en Syrie, elles le seront dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel. C'est ma conviction.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Violence en Côte d'Ivoire, 7 morts et 44 blessés. Tel est le tout dernier bilan des affrontements intercommunautaires entre les autochtones Baoulé et les Dioula originaires du Nord, qui ont commencé mercredi à Béoumi dans le centre du pays. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP ce vendredi une source policière qui a tenu à garder l'anonymat. Jeudi, le préfet de la ville a fait état de 3 morts et 40 blessés et décrété un couvre-feu local de 18h, temps universel à 6h du matin. À l'origine des accrochages, une altercation entre un chauffeur de taxi brousse et un conducteur de moto-taxi à la gare routière, qui a dégénéré en bataille rangée. Les transporteurs détenus Dioula et les pilotes de mototaxi détenu Baoulé se querellent depuis longtemps. La tension reste vive ce vendredi à Béoumi.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme en République démocratique du Congo. Le grave manque de financement pourrait l'obliger à réduire ses activités de lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Un avertissement annoncé alors que le nombre de cas de fièvre hémorragique monte en flèche. Bagassikoura.
La situation est grave, a déclaré le directeur du département santé de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Emmanuel Capobianco, lors d'une conférence de presse à Genève. L'ampleur et la qualité des activités qui seront menées par les volontaires de la Croix-Rouge diminueront considérablement au cours des deux prochaines semaines, faute de financement supplémentaire, a-t-il dit. Depuis le début de l'épidémie en RDC, il y a eu près de 1150 décès, plus de 1700 cas confirmés et probables selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, mais 20% de ces cas ont été signalés au cours des trois dernières semaines seulement, a révélé Capobianco, qualifiant ce pic d'alarmant. Les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont reçu jusqu'à présent moins de la moitié des 31,5 millions de francs suisses, soit 28 millions d'euros demandés pour financer leurs activités.
Et pour terminer la crise en Libye, le président français Emmanuel Macron recevra la semaine prochaine le maréchal libyen Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, qui a lancé une offensive sur Tripoli. Objectif de l'Élysée, tenter de relancer le processus politique en Libye. Emmanuel Macron avait reçu le 8 mai le Premier ministre Fayez al-Sarraj, chef du GNA, le gouvernement d'Union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale. Emmanuel Macron va alors réaffirmer le soutien de la France à Fayez al-Sarraj et appeler à un cessez-le-feu sans condition en Libye. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.